Variation en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Variation en noir dans Variation, le dernier vendredi du mois. Guy Le Polarski au micro, vous écoutez Radio PFM et vous avez rendez-vous avec les littératures policières. Variation en noir, c'est une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, en particulier avec un membre éminent de cette association, Hervé Delouche. Hervé qui est avec nous au téléphone depuis la capitale. Hervé, bonjour.
Je vous salue.
Alors, avec Odingo au château, Manchette en 1972, dresse un portrait sombre de la société de consommation. Et Marin Le Dain d'ajouter « La fonction politique du roman noir est centrale et précieuse ». Alors vous pourrez retrouver les très intéressantes considérations de Marin Le Dain sur le roman noir et sur Jean-Patrick Manchette, donc dans un petit écart intitulé « Mon ennemi intérieur » dont nous avons parlé ici même lors de sa sortie en 2018. Et si je fais référence à ce livre, c'est que ce mois-ci, au sommaire de Variation à noir, nous vous proposons et Marin Le Dain avec un roman terriblement noir, Free Queens, publié en série noire, et Jean-Patrick Manchette avec la publication à la table ronde des entretiens qu'il a accordés entre 1973 et 1993, et ça s'appelle « Derrière les lignes ennemies ». Alors Marin Le Dain, avant de parler de son nouveau roman, Free Queens, quelques mots de présentation, Hervé, de cet auteur que tu connais bien et qui a commencé à se faire connaître dans le roman noir français au début des années 2010, avec notamment son roman Les visages écrasés, qui a obtenu le trophée à l'époque, le trophée 813 du meilleur roman francophone. Il obtiendra aussi par la suite le prix Jean-Abilin Mecker, un certain nombre de prix, et il a publié en 2018...
Oui, c'était donc, avec L'Homme qui a vu l'Homme, je
L'Homme
crois.
Qui a vu l'Homme, oui, voilà. Il a publié en 2018 un petit écart dont nous avons parlé ici même, Mon ennemi intérieur, qui évoque sa relation au roman noir, mais qui permet aussi de mieux connaître l'homme et l'auteur. Alors, je sais que tu connais bien Marin Le Dain, vous êtes proche. Quelques mots peut-être de présentation, Hervé, sur cet auteur de romans noirs français.
Oui, bah, ce qui nous intéresse le plus ici, c'est, enfin, Marin Le Dain, il avait une formation de sociologue, une solide culture en la matière, mais voilà, il a travaillé sur des plateformes, enfin des trucs, il a connu lui-même dans sa peau la souffrance au travail.
Il a travaillé pour France Télécom.
Il a travaillé évidemment pour France Télécom. Il est il a témoigné et a parmi avec d'autres syndicalistes, sociologues, Daniel Linhart, etc. sur lors d'un procès assez récent sur ce thème de la souffrance au travail. Il a fait ce roman Les visages écrasés, qui est issu de cette expérience, même si c'est une fiction mettant en scène une médecin du travail au sein de l'entreprise. Et puis après avoir fait une sorte de burn-out et tout, il est passé à l'écriture et s'est imposé comme une des voix les plus singulières et les plus fortes du roman noir français, je crois. Et le grand intérêt de Mon ennemi intérieur, ce petit essai qu'il a fait au petit écart, que tu as cité, c'est que c'est une réflexion sur comment lui-même en est arrivé à écrire du roman noir, pourquoi il le fait, et ce type de réflexion sur le genre lui-même est assez rare pour qu'on le souligne, car et ben justement, il y a là un lien avec Manchette. On peut penser quand même qu'il y avait un peu, depuis la disparition de Manchette, ses chroniques, ses correspondances, là, ses interviews qui sont publiées, il y a comme un chaînon manquant. Il y a des gens qui écrivent des choses absolument passionnantes, mais la réflexion sur le genre lui-même est quand même assez rare, à mon avis. Donc, si vous vous intéressez au polar, lisez Mon ennemi intérieur.
Voilà. Et puis, donc, Marin Alaudin, il aborde donc la question du roman noir et il apporte quelques définitions. Enfin, comment il considère, lui, le roman noir. Et il écrit, je cite, « Le roman noir prend le temps de nous raconter une autre histoire pour contrebalancer la version officielle. Le roman noir n'est pas engagé, mais il prend ses responsabilités. Comme l'écrit Howard Zinn, tant que les lapins n'auront pas d'historien, l'histoire sera racontée par les chasseurs. Et le grand récit que nous servent les dominants est celui des vainqueurs, des gagnants. Écrit, réécrit pour les besoins et à la gloire d'une poignée de puissants, il n'est pas la réalité, nous le savons tous. Il n'est même pas son reflet, il n'est qu'un miroir aux alouettes, un ensemble nébuleux de miroirs équivoques, pour reprendre la formule heureuse de Louis Quéré. » Donc, roman témoin de son temps et donc un roman qui raconte une autre histoire et ça colle complètement avec Fruit Queens, le dernier roman donc de Marin Alaudin, Hervé, qui commence à Paris le 13 juin 2019, porte de Pantin. L'autocar Mercedes-Benz de l'association Bus des Femmes débarqua porte de Pantin sous une pluie battante aux alentours de 2h du matin. Comme chaque jeudi, il descendit la bretelle du boulevard périphérique et se gara à proximité de la porte où travaillaient une dizaine de prostituées nigérianes. Alors ce bus va finalement recueillir une de ces prostituées après bien des péripéties et une scène d'ailleurs d'une grande violence, et cette jeune femme se présente. « Je m'appelle Jasmine Doyoun, dit-elle d'une voix franche, je vais bientôt fêter mes 15 ans et je veux vivre. » Voilà donc le début de Free Queens, Hervé.
Ah bah oui, tout à fait, c'est ce début qui commence effectivement sur, comment on peut dire ça, si on prenait la formule consacrée, un peu sur les chapeaux de roue, avec cette très jeune prostituée nigériane qui vient se mettre sous la protection de ces femmes, Serena Meunier qui va la prendre sous son aile, et puis qui va se rendre au Nigeria pour faire une enquête sur les réseaux de prostitution au départ, et qui va pour comme correspondante du Monde et aussi pour un article pour The Guardian, si je me souviens bien.
C'est ça.
Mais elle va croiser évidemment la route de la prostitution au Nigeria va l'amener à croiser une route j'allais dire qui est à l'origine de tout ça, qui est une route très criminogène et qui est la route de la bière, en fait.
Oui, bon parce que ce roman débute à Paris, mais on y reste très peu à Paris. Ensuite, Marin Alaudin nous entraîne vers le Nigeria, Lagos, d'autres régions du Nigeria, début 2020. Et donc, tu l'as dit, hein, cette journaliste qui était dans le bus pour faire un reportage à Paris et qui, donc, suite à cette rencontre avec la jeune prostituée, très jeune, mineure nigérienne, décide de partir mener l'enquête, et notamment sur les filières qui amènent toutes ces femmes à la prostitution et qui les amènent aussi en Europe. Alors d'un côté, une multinationale qu'elle va découvrir, tu l'as dit, MB Nigeria, qui produit de la bière et dont l'objectif est de noyer le marché nigérian avec la First, sa marque de bière, et de l'autre, donc cette journaliste française qui cherche à comprendre ce qui peut amener toutes ces jeunes femmes sur les trottoirs des grandes villes européennes. Et petit à petit, bon, tu l'as dit, va être dévoilée la méthode de la puissante brasserie, qui est une brasserie européenne, Hervé.
Oui, tout à fait. Ce qui est particulièrement impressionnant, passionnant dans ce roman noir, qui est un véritable thriller au sens qu'il happe réellement le lecteur, mais qu'il n'est pas, il n'est en tout cas pas qu'un divertissement, loin de là. C'est de raconter cette comment une industrie, en l'occurrence, comme tu dis, Master Brewers, je crois, une industrie de la, cette industrie de la bière qui est en Europe, qui est en Hollande, elle est devenue une institution, comment elle façonne cette industrie, elle façonne un pays, et Dieu sait que c'est un très grand pays, immense, le Nigeria, qui est foisonnant, qui est multiple, et il écrit Marin, elle redessinait les cartes de la ville, la vie quotidienne et les déplacements de toute une population, elle racontait l'histoire d'une ville et d'une région, et ça c'est très très fort, c'est-à-dire que on part effectivement d'une enquête sur ce crime qu'est il y a la jeune prostituée qui échappe à ses macs et qui se réfugie à Paris, de là naît l'enquête de Serena Monnier. Il y a par ailleurs deux jeunes femmes qu'on va retrouver assassinées dans un fossé au bord d'une autoroute, je crois, au Nigeria, ce qui va conduire à une enquête d'un ex-flic qui maintenant travaille à la sûreté routière et dont on va, je pense, parler parce que c'est un personnage important. Mais derrière ces crimes particuliers, si on peut dire, on va trouver toute une entreprise criminelle qui est en fait comment une industrie dans un pays où elle peut avoir, grâce à la corruption, grâce à la guerre, grâce à des tas de raisons, elle peut avoir les mains libres, et comment elle peut déployer toute une activité commerciale, cynique et criminelle.
Une entreprise et une emprise, donc à la fois économique, mais même politique et sociale, finalement. En tout cas, bon, tu l'as dit, c'est une série noire, donc c'est un roman qui se lit, on a énormément de mal à le lâcher, il y a ces différentes intrigues, mais c'est aussi une sacrée plongée dans l'atmosphère nigériane, alors à la fois, j'ai envie de dire, physique, la chaleur, le climat,
la moiteur,
je trouve que, alors je t'ai posé la question, tu m'as expliqué que Marin Le Dain n'avait pas lui-même mené une enquête au Nigeria, mais vraiment, on a l'impression d'y être dans ce pays d'Afrique, et donc ça c'est aussi une sacrée performance. Donc il y a à la fois cette plongée dans l'atmosphère physique, Et puis donc plonger dans cette atmosphère politique complètement dévoyée, pleine de corruption, le proxénétisme, etc. Et tu l'as évoqué, hein, ce flic un petit peu voilà, qui n'est plus flic en fin de compte, qui est responsable de la sécurité routière, et qui voilà, fait le lien entre sa propre fille et les cadavres de jeunes filles qu'il découvre, et qui lui aussi se met en tête et met en œuvre, hein, les moyens de découvrir la vérité. Et ça, c'est un personnage vraiment clé du roman de Marin Lodin, Hervé.
Ah oui, je pense que d'abord, je tenais à dire une chose, c'est que moi, ce roman de Marin Lodin, que je tiens pour un des meilleurs que l'auteur ait jamais écrit, il réussit une chose, c'est-à-dire que Marin, il a évidemment un talent absolument indéniable pour de raconteur d'histoire, de créateur de suspense, qui soit à la fois qui est le, comme tu dis, ça ne se lâche pas, c'est donc du divertissement très fort, dans le sens où on est pris par un texte et on a envie de le continuer. D'un autre côté, par la profondeur sociale, politique au sens fort du terme, mais ça on savait, Marin, son brio dans ce domaine. Mais par ailleurs, c'est que là, je pense qu'il donne aussi une épaisseur à ses personnages qui est particulièrement remarquable, et notamment à Oni Goger, cet ex flic qui maintenant travaille à la sûreté routière, dont on découvre aussi la vie de famille, dont on découvre sa pratique à la mosquée de musulman, et il va nous raconter, on a parlé de la route, de cette route de la bière que dessine et que déploie vers le nord du Nigeria, si particulier, si différent du sud riche. Il y a le nord délaissé où la fraction de l'État islamique, Boko Haram, fait régner la charia, et puis où évidemment il y a aussi de la corruption, il y a plein de choses. Et on a parlé de cette route que l'industrie de la brasserie, évidemment, veut continuer, ces territoires qu'il veut conquérir pour gagner de plus en plus de parts de marché. Mais Oni Goger, il va nous raconter aussi une autre histoire de la route, cette route où il va trouver, lui, les deux jeunes prostituées assassinées, parce que la route, c'est son terrain. Il va raconter la misère de la route, il va raconter l'histoire de ces familles qui y vivent et qui vivent autour, ou qui tentent de survivre et qui pour cela vont, c'est terrifiant, mais sont amenées pour certaines à vendre leurs filles, et la boucle, si on peut dire, se referme.
Oui, des destins complètement bouchés pour les femmes, entre Boko Haram, que tu as évoqué d'un côté, et puis voilà, ces perspectives, hein, très, très sombres. Alors, il faut aussi signaler, Hervé, quoi, une particularité, et qui est finement abordée, c'est que notre journaliste française, elle part au Nigeria début mars 2020, et donc quelques jours avant le début du confinement, du dernier confinement, hein, suite à l'épidémie, la pandémie de Covid. Et il y a aussi donc le regard sur cette pandémie, sur ces confinements, du point de vue de pays comme le Nigeria, de pays africains, qui pendant un moment seront aussi confrontés à une forme de confinement, et qui va faire des dégâts dans la population terribles.
Ben oui, bien sûr, parce que évidemment au départ il y a la manière dont le confinement en Europe est vu de là-bas, où c'est évidemment considéré comme pas grand-chose par rapport à une population nigériane qui dans sa très grande majorité vit très difficilement et à bien d'autres soucis, bien d'autres priorités choses à surmonter au quotidien. Mais d'un autre côté, le confinement, quand il va s'étendre, notamment au Nigeria, va l'être d'une manière beaucoup plus radicale, c'est-à-dire qu'en gros, si vous bravez le confinement, on vous tire dessus, hein, c'est simple. Et puis, par ailleurs, il va avoir cet effet que, toutes ces femmes, elles ne vont plus pouvoir travailler puisque elles vont être cantonnées, elles ne vont plus pouvoir sortir, et donc, évidemment, le confinement va être synonyme d'encore un peu plus, si c'était possible, de misère et de souffrance.
Voilà donc Free Queens de Marin Le Dain.
Alors moi, oui, je voudrais bien rajouter un tout petit quelque chose, et d'ailleurs ça m'intéresse que tu réagisses, mais je pense aussi que Free Queens, à travers Serena Meunier, évidemment, qui est cette jeune Française qui découvre un pays, à qui on dit d'ailleurs, on conseille, on lui dit prends ton temps pour arriver à comprendre des choses.
Pour mener son enquête.
Et Marin, à travers ce livre, il prend aussi, même s'il y a des tas de coups d'accélérateur et beaucoup de rebondissements, mais il prend aussi son temps, et on peut aussi voir, à mon avis, Free Queens comme une réflexion sur l'écriture critique, sur le travail d'écrivain, comment on peut, de l'extérieur, parler du Nigeria, bien sûr, mais d'un trafic qui vient d'Europe quand même, et qui, à ce titre-là, concerne évidemment ce trafic criminogène, concerne évidemment les Européens, et puis parler de ces femmes qui souffrent, mais de ces femmes qui se révoltent aussi. Il y a de très beaux portraits des femmes qui militent dans des associations, dont Free Queens d'ailleurs, et il faut pas oublier non plus que on en voit un exemple à la fin du livre, même si la toute fin est glaçante, mais on la révélera pas, mais il y a eu des manifestations évidemment de femmes contre les violences faites aux femmes, mais aussi de la jeunesse contre les violences policières, qui sont évoquées ici avec beaucoup de force, et voilà, et qu'il y a quand même il y a une lumière noire.
Oui, complètement d'accord, c'est ce que je disais en citant un extrait de Mon ennemi intérieur de Marin Le Dain. Le roman noir prend le temps de nous raconter une autre histoire, hein, pour contrebalancer la version officielle, c'est ça. Et donc, au-delà, donc il y a une autre histoire, mais il y a aussi une histoire. Il nous raconte une histoire de personnes, de jeunes filles, pas une histoire générale. Et on y reviendra dans la deuxième partie de cette émission, quand nous évoquerons Manchette, sur en fin de compte, la littérature comme divertissement, mais tout en nous permettant de raconter cette autre histoire. Et c'est quand même quelque chose de complexe, et là la performance de Marin Le Dain est exemplaire, hein, je pense, à ce sujet. Donc Hervé, une dernière chose aussi dont nous avons parlé, hein, en préparant cette émission, c'est que forcément ce livre de Marin Le Dain nous a fait penser à Caryl Ferré, qui est un auteur français aussi important de romans noirs, qui lui situe ses romans dans différents pays du monde, et donc dont on a appris, hein, que son prochain roman, qui doit sortir fin août, à la série Noire, va aussi se passer en Afrique.
Ce roman qui s'appelle Okavango, je crois, est-ce que j'en ai le peu que j'en ai appris, mais enfin, il va nous conduire entre Rwanda, Namibie et Angola. Et Caril va y raconter une histoire sur une des grandes plaies de l'Afrique, qui est le trafic d'animaux. Et là aussi, il va évidemment se pencher sur les exécutants de ce trafic, mais aussi les commanditaires. Je pense que on va trouver des Européens dans le lot, je pense, et que ça doit être sans doute un des premiers polars, peut-être un des premiers romans à se passer au cœur des réserves et ça réserve, si j'ose dire, de la beauté sauvage et un vrai cri de rage de notre cher Caril Ferré.
Africans, please listen to me as Africans, and you non-Africans, listen to me with open mind. Suffer for world, now your fault be that. Me I say, now your fault be that. Suffer for world, now your fault be that. Me I say, now your fault be that. You all to please take your minds out of this musical contraption and put your minds into any goddamn church, any goddamn mosque, any goddamn celestial, including Seraphim and Cherubim.
Radio PFM, vous écoutez Variation en noir, et pour illustrer bien sûr le roman de Marin Le Dain, Free Queens en série noire, Fela Kuti, qui est évoqué dans le roman par Marin Le Dain, qui est un emblème à la fois musical et politique de la lutte contre la corruption, la dictature et le pouvoir des multinationales dans son pays. Alors, Hervé, quelques mots sur donc ce livre de la table ronde, Manchette, entretien 1973-1993, derrière les lignes ennemies, donc qui est un recueil d'entretiens que l'auteur a accordé à différents journaux, à la télévision. Il y a un extrait de l'émission Apostrophe à laquelle il avait participé, à des revues, etc., entre les années 73 et 93. Déjà, il faut saluer le travail de la table ronde, qui avait déjà publié un premier recueil de lettres, Lettres du mauvais temps, la correspondance de Manchette entre 1977 et 1995, date de sa mort. Et vraiment, c'est la possibilité de découvrir une nouvelle fois cet auteur, Jean-Patrick Manchette, hein, que l'on ne présente plus, ce Jean-Patrick Manchette qui parle de cinéma dans ce livre, de BD, de jazz, de littérature, bien sûr, de révolution, de politique, bref, de la vie. Il parle aussi de lui, il y a des entretiens croisés. Un des entretiens moi qui m'a le plus intéressé, c'est celui qui est croisé avec Robin Cook, auteur anglais de romans noirs. Alors encore une fois, beaucoup de choses, et est difficile de ressortir un élément particulier de ce livre, mais peut-être pour faire le lien avec Marin Aledin, cette question du roman noir, qui est un roman à la fois de divertissement et donc un roman qui raconte une autre histoire, un roman témoin de son temps, disait Jean-Patrick Manchette. Alors lui, Jean-Patrick Manchette, il évoque la question du camouflage. Je cite, en tout cas, la forme en question, donc le roman de la série noire, me sert de camouflage. C'est-à-dire que de la même manière que dans le camouflage en taches irrégulières, il y a du jaune, marron, vert. Il y a dans mes romans des poursuites en voiture, des belles nanas, des coups de feu, comme je le disais tout à l'heure. Voilà. Hervé, toi, ton ressenti sur ce livre de la table ronde.
Ah ben mon ressenti, c'est d'abord toujours un immense plaisir, parce que lire évidemment les romans de Manchette, mais lire ses chroniques, lire sa correspondance, lire ce qu'il raconte lors de ses entretiens, là dans Derrière les lignes ennemies, c'est toujours c'est à la fois très intelligent et très jubilatoire, c'est-à-dire qu'il y a un plaisir à lire du Manchette, enfin à mon avis il y a un plaisir parce que il y a un choix de l'expression, il y a une espèce de, il y a toujours une légère ironie, il y a beaucoup de culture, mais de culture qui ne domine pas, c'est-à-dire que ça circule, de même qu'on peut apprécier le premier chapitre et du Petit Bleu de la Côte Ouest, qu'on ait ou pas une culture marxiste, et son passage au chapitre 2 qui est du pur roman noir hard-boiled, c'est toujours très très subtil, ça fait toujours beaucoup beaucoup réfléchir, et c'est quand même à mon avis une pensée qui est toujours d'une grande actualité, même si peut-être la tâche du roman noir n'est à trouver des moyens de se maintenir, parce que plusieurs fois, c'était d'ailleurs un de ses leitmotifs, Manchette disait que le polar, il y avait un côté peut-être un peu provocateur, mais le polar s'était terminé parce que de toute façon le vrai hard-boiled, c'était une littérature de la contre-révolution, voir comment il était né aux États-Unis au début des années 1920, et que au moment où Manchette écrivait, la révolution était à nouveau à l'ordre du jour. Alors disons plusieurs décennies après tout cela, on peut peut-être le désordre est grand sous le ciel, ça c'est certain, le chaos est grand aussi, mais justement le roman noir a encore a bien des raisons d'être.
Oui, et il faut bien sûr lire les romans de Manchette, mais il faut aussi lire ce que Manchette écrit son œuvre, parce que la particularité est je lisais un article de Philippe Lançon dans Libération sur justement ce recueil de textes de Patrick Manchette. À partir de 1981, Manchette ne publie plus son dernier roman publié, Position du tireur couché. Et le dernier publié. Alors il continue bien sûr d'écrire, il travaille pour le cinéma, mais jusqu'à sa mort en 1995, il ne publiera pas de livres. Et il devient exclusivement, écrit Philippe Lançon, le commentateur de son travail passé, de ses travaux inaboutis, des livres qu'il lit, qu'il traduit, de sa propre histoire et de l'impasse dans laquelle il se trouve, que tu viens d'évoquer d'ailleurs.
Oui, tout à fait.
Et donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Puis bon, Manchette, c'est l'éditeur qui nous le rappelle dans sa correspondance, confie qu'il lui arrive d'être d'une verbosité redoutable par écrit. Et il ajoute, Manchette, que c'est bien pire lorsqu'il parle, puisque là, ce sont des transcriptions d'entretiens parfois oraux. Et c'est vrai que c'est terrible. Et d'ailleurs, Robin Cook, dans un entretien croisé, explique qu'il n'aimerait pas être un auteur lu par Manchette, car il y en a peu qui échappent à sa plume qui fait mal.
Oui, tout à fait. Manchette ne se satisfaisait pas du tout d'idéologie, pourfend d'ailleurs ceux qui, à son avis, n'ont pas compris ou pas voulu comprendre que le roman noir tel qu'il naît avec Dashiell Hammett n'est pas un roman idéologique, justement. Et d'où l'importance qu'il accorde à la forme, à l'art de la citation, à l'auto-ironie, à des choses comme ça, et au style de ces romans qui sont par ailleurs d'impeccable le roman hard-boiled, et c'est pour ça d'ailleurs que je crois qu'à un moment il est interviewé par Hervé Prudhon, l'auteur de Tarzan malade, de Mardi gris, et que dans des chroniques il sauve, lui, comme Vautrin, comme Biallo et quelques autres, mais par contre Manchette aura des mots très sévères envers des auteurs, je ne citerai pas, qui pensent être dans sa lignée parce que ils sont des auteurs gauchistes. Voilà.
Oui, il rappelle d'ailleurs la nécessité d'être parfois contre les deux camps, Est-Ouest, bien sûr, à une certaine époque, mais à tout moment. Et ça, je pense que c'est vraiment important chez Manchette. Et comme tu l'as dit, aussi sa relation à l'écriture, je pense que c'est dans ses échanges avec Robin Cook, il parle un peu de leur manière d'écrire. Et donc Manchette explique qu'il y a des brouillons, il écrit, il réécrit, il réécrit et il réécrit encore. C'est vraiment un travail d'artisan. Il préfère se présenter comme un artisan de la littérature plutôt que comme un artiste. Mais...
Oui, moi aussi j'aime beaucoup ce mot qu'il explique, comme quoi il se désigne, qui n'est pas par une espèce de modestie fausse ou réelle, mais par une espèce de précision du langage. Ça me paraît très très fort. Il y a plein de moments très 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 intéressants, très touchants aussi, y compris quand il parle de sa propre agoraphobie. Alors que Manchette est un homme d'une extrême pudeur quand même. Mais sont touchants ou très intéressants aussi ces entretiens croisés avec, par exemple, l'Espagnol Manuel Vázquez Montalbán et aussi beaucoup avec Robin Cook, que Manchette aura à plusieurs reprises rencontré, salué et Robin Cook, qui est un auteur malheureusement à mon avis trop peu lu, trop Et Manchette avait dit de lui dans ses chroniques combien ce critique violent du désordre actuel écrivait des textes horribles et bouleversants, et ça fait plaisir de retrouver leur conversation.
Et donc oui, et en plus une belle photo de couverture pour ce livre, hein, oui. Où Jean-Patrick Manchette lors de l'émission Apostrophe, c'était en juillet 1979, alors un peu surprenant avec un costume trois pièces, un gilet, une cravate, mais une chemise noire bien entendu, et
très élégant.
Voilà, très très élégant et un sourire, un léger sourire qui dit beaucoup, je pense aussi sur cette photo. Voilà, donc Manchette.
Bah, donc je pense qu'il faut quand même beaucoup remercier. Je crois pas qu'on l'ait encore cité, mais le travail de Nicolas Leflaet, notamment, qui est le plus grand, à mon avis, connaisseur de Manchette dans l'Hexagone, et qui nous avait après nous avoir donné, il y a des années de ça, chez Anacart 6, un livre collectif autour de Jean-Patrick Manchette, a entrepris à la table ronde de réunir la correspondance, de réunir aussi, de publier aussi, je crois, un livre, les chroniques sur le jeu, c'était Play It Again du
voilà, c'est ça.
De Manchette, et là, les entretiens qu'il a donnés entre 73 et 93, ce derrière les lignes ennemies, voilà, que préface d'ailleurs brillamment Leflaec, c'est vraiment des beaux cadeaux.
Tout à fait, des entretiens, signalons-le. Réunis par Dougalyn, le fils de Jean-Patrick Manchette, hein, et aussi une préface de Jacques Folle. Voilà, donc à lire, hein, Manchette, derrière les lignes ennemies, entretien 1973-1993, et Marin Le Dain, Free Queens, Gallimard, Série Noire. Voilà, c'était Variation en Noir. Le dernier vendredi du mois, une émission de Radio PFM réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, et en particulier avec Hervé Delouche. Hervé, au revoir.
Eh bien, au revoir Guy, au revoir à toutes et tous. Très bonne lecture.
Voilà, et rendez-vous dans un mois.